Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du sommet de la francophonie qui se tient en France en ce 4 et 5 octobre et qui célèbre la langue et la culture que nous avons très nombreuses et nombreux en partage dans le monde entier, je suis très heureuse d'accueillir une écrivaine qui, comme personne, malaxe les mots, incarne les sensations, travaille le son, le toucher, le goût, l'odorat et la vue. Une autrice, une artisane qui fait du monde un livre grandeur nature, sans doute parce qu'elle a fait le choix aussi de vivre au cœur de cette nature, loin des villes, au milieu des bois, au Québec. Bonjour Audrey Villelmy.
Bonjour.
Cette langue française que vous écrivez avec tant de virtuosité, elle est au cœur de votre nouveau roman qui paraît aux éditions Le Tripode sous le titre « Peau de sang ». Avant d'entrer dans cette fable, ce conte qui fait entendre les voix tues, un mot sur cette actualité. Que représente pour vous le mot « francophonie » ?
Une pluralité de sons, de bassins de langage auprès desquels aller puiser. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fermé, qui n'est pas hermétique. C'est un registre de langue très vaste, non seulement d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue temporel aussi. C'est-à-dire qu'on a tout un bassin historique dans lequel on peut aller puiser des termes qui sont disparus, des termes qui sont devenus autre chose et avec lesquels j'aime beaucoup m'amuser.
Sachant d'ailleurs qu'au Québec, vous, et je dis vous en général, défendez cette langue cernée par les territoires anglais avec beaucoup de force. Est-ce que pour autant vous êtes des guerriers ou des gardiens?
Je me sens plus gardienne que guerrière, mais j'ai l'impression que c'est une question de tempérament un peu. Il y a de la place pour les deux postures, c'est-à-dire que ça nous prend des guerriers pour que gardiens nous puissions faire notre travail.
Donc il y a quand même un combat encore aujourd'hui?
Je ne pense pas que ce combat-là va cesser un jour. Puis c'est vrai pour toutes les sphères de culture qu'on tente de préserver, que ce soit la langue ou que ce soit un site historique, un savoir traditionnel. Donc, il y a un combat qui est amené en même temps que parallèlement, il y a une mémoire qui est à raviver et à maintenir. Je me tiens davantage du côté de la mémoire et de la protection du feu que du côté de la revendication, mais je sais que c'est absolument nécessaire d'avoir les deux pôles qui sont occupés.
Et ça passe aussi donc par l'écriture, par la littérature. Et donc, parlons maintenant de ce nouveau livre intitulé « Peau de sang ». Qui est Peau de sang?
Pourtant, c'est un personnage qui est assez amusant à interroger parce que c'est donc une figure qui est gravitationnelle. C'est-à-dire que c'est une plumeuse d'oie qui est au centre de son village. Sa boutique est au centre du village et elle-même occupe une place particulière dans toutes les dynamiques et relations de Kangok, le village où ça se passe, parce qu'elle est travailleuse du sexe, donc elle reçoit les hommes chez elle. Ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas vraiment problématisé. Ce n'est pas une situation qui génère de l'attention ou qui la marginalise spécialement. Et les jeunes femmes viennent à sa rencontre pour broder leur trousseau et en même temps apprendre un peu ce que va être leur vie de femme. Les femmes plus âgées viennent vers elle avec des questions par rapport à leur corps, par rapport aux transformations qu'elles vivent avec l'âge. Donc, c'est une figure qui finalement fait office de formatrice et d'initiatrice pour un peu tout le monde. Donc, même si au départ, on a l'impression que c'est surtout l'histoire des hommes qui vont à la rencontre de leurs désirs, c'est finalement l'histoire de tout un village qui va à la rencontre de lui-même.
Est-ce que d'une certaine façon, c'est aussi une déclinaison de peau d'âne, comme le conte terrible d'ailleurs, puisqu'on s'en souvient, c'est l'histoire d'une adolescente qui doit fuir son père, lequel veut l'épouser. Et donc, pour éviter l'inceste, elle est obligée de se cacher en portant la dépouille d'un âne mort.
Il y a un peu un jeu de renversement. Donc, il y a un des personnages qui est contraint de lire peau d'âne à ses filles un peu à l'infini, ce que j'ai dû infliger à mes parents probablement aussi, avec pas nécessairement ce conte-là, mais d'autres, et qui donc surnomme peau de sang de cette façon-là à cause de peau d'âne. La particularité de peau de sang, c'est que c'est une extraordinaire brodeuse et extraordinaire dans un sens presque magique et merveilleux du terme. Donc, elle est vraiment à la frontière entre le réel et l'imaginaire comme figure. Et donc, elle porte sous ses jupons et ses tabliers de bouchère tout un trésor de robes un peu magiques qui viennent magnifier le côté merveilleux du personnage et qui ramène le fait que c'est pas une humaine, c'est pas quelqu'un qui appartient au même registre que les autres villageois du village.
Alors, c'est vrai que c'est un conte, une fable, on l'a dit, qui se déroule donc dans cette ville appelée Kangok, mais sans aucune indication géographique ni repère temporel. C'est un lieu étrange, mais en même temps familier, parce que vous reconstituez, Audrey Villalmy, une communauté organisée, avec un maire, un notaire, un médecin, un postier. Il y a aussi ces jeunes filles prêtes à se marier, des épouses éplorées, des maris frustrés, des gentils, des un peu plus violents. Et tous ces personnages sont en effet aimantés par la plumerie, par la boutique de peau de sang. Pourquoi, selon vous, est-ce parce qu'elle incarne une forme de liberté que eux n'ont pas ?
Oui, la première vraie réponse, c'est oui. Elle a quelque chose auquel ils n'ont pas accès parce qu'elle est dans une structure où les codes sociaux qui régissent beaucoup la vie de tous les autres personnages ne s'appliquent pas à elle parce qu'elle décide qu'ils ne s'appliquent pas à elle. Donc, elle a une très grande agentivité qui fait en sorte que ce que les autres s'imposent par désir de correspondre aux normes sociales, elle ne se l'impose pas. Donc déjà, il y a quelque chose d'assez attractif par rapport à cette façon d'être au monde. Mais ensuite, là où ça les attire vraiment, c'est qu'elle leur permet de s'approcher de ça en eux. Donc, pourtant, quand les gens vont la voir, ils ne vont pas la voir pour s'approcher d'elle, ils vont l'avoir pour s'approcher d'eux-mêmes. Et elle permet d'être une espèce de révélateur d'une partie un peu plus libre ou un peu plus ensauvagée ou un peu plus proche des pulsions qui est tellement contrainte dans le contexte social qu'elle ne se libère pas et qui, à son contact, peut lentement se dénouer. Ça ne se dénoue pas à la même vitesse pour tous les personnages. Ça ne fonctionne pas très bien pour certains, ça fonctionne magnifiquement pour d'autres. Mais elle accueille chaque personne avec cette intention-là de la prendre telle qu'elle est et de la rapprocher d'elle-même plutôt que de lui imposer une vision qui serait « ben, soit comme moi, moi je suis libre, soit comme ça ». C'est pas efficace comme façon de fonctionner. Donc, elle amène chacun à être libre à sa propre manière, de sa propre manière.
Ce qui est fascinant aussi dans votre roman, André Villalmy, c'est ce contraste entre la douceur incarnée d'ailleurs par la plume des oies qu'elle travaille, par les broderies, par la couture. Et en même temps, il y a une grande violence dans sa boutique parce que ces bêtes sont accrochées à dans des crochets. Il y a du sang, elle est viscère, elle travaille aussi. Donc il y a vraiment ces deux opposés. Comment est venue d'ailleurs l'idée de cette plumeuse ?
Mais en fait, déjà pour cette espèce de tension entre ce qui est dur, ce qui est sale, ce qui est violent, ce qui est très pur, ce qui est très doux, ce qui est très propre, à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Et ce qui m'intéressait avec la plumerie, c'est cette possibilité justement de les marier dans un seul endroit. Et même l'idée de la plumeuse à proprement parler, cette question d'une oie blanche qui est donc à la fois excessivement douce, belle et très, très pure, est quand même un cadavre mort à manipuler, à transformer. Puis, si on n'en fait rien, ça va se perdre. Donc, sans la violence, cette pureté-là, elle ne sert plus à rien. La viande va passer, les plumes vont salir, les vers vont manger l'animal, ça ne sert à rien. Donc, l'acte violent est nécessaire pour donner une deuxième vie à cette oie-là qui a été magnifique, qui a été douce, qui a été pure, qui devient d'autres choses. Et la plumeuse est un peu cette fonction qui permet le glissement d'un état à un autre. Il y a un autre personnage dans le roman qui s'appelle la Yaga, qui incarne la mort, qui est l'ancienne plumeuse, en fait, qui a vieilli et qui est devenue la figure de la mort. Elle est tellement belle, tellement lumineuse que les âmes, quand elle passe, ont envie de la suivre plutôt que d'avoir cette idée de la faucheuse. Mais donc, c'est des fonctions qui permettent un changement d'état. Et sans une forme de violence parce qu'on passe d'une chose à une autre, ce changement d'état-là n'est pas possible. Donc, la plumerie était vraiment le cadre idéal pour traduire cette idée de la blancheur, de la pureté et de la dureté et des gestes très concrets que ça prend pour vivre une transformation.
Mais est-ce qu'il y a une plumerie là où vous vivez? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que vous avez rencontré une
plumeuse? Mais
je ne sais
même pas si ça existe en vrai. Je ne sais pas si ça a déjà existé. Je sais que c'est un geste que les paysans, paysannes, peu importe leur origine dans le monde, ont à faire, encore aujourd'hui, ont eu à faire allègrement. Mais est-ce qu'un lieu comme celui-là existe? J'ai pas l'impression que c'était centralisé chez une personne. À la limite, on aurait plutôt des plumassières qui iraient travailler le duvet après, qui en feraient des autres choses. Mais une plumerie comme ça, je suis pas sûre que ça existe.
Cette liberté, d'une certaine façon, elle va quand même la payer au prix fort, parce que, sans trop en dire, mais c'est le début du roman, on apprend qu'elle est morte et on remonte le temps. Un an auparavant, on fait les quatre saisons et c'est ainsi qu'on va apprendre à la connaître, à l'aimer. Mais donc, si elle meurt, Audrey Wilhelmy, dès le début, est-ce que ça veut dire que c'est son statut de femme indépendante, la place à part qu'elle a dans la communauté, qui fait que, d'une certaine façon, elle est non pas marginalisée, mais elle acquiert ce statut de sorcière qui fait qu'au final, elle en meurt?
En fait, c'est une interprétation tout à fait adéquate. C'est pas celle que j'avais en tête en écrivant. Pour moi, elle meurt parce que c'est là où son rôle est rendu à ce stade-là de l'histoire. Elle-même, donc c'est la narratrice du roman, elle le raconte de manière posthume. C'est pas une très grande tragédie dans sa vie d'être morte. C'est pas quelque chose qui semble la choquer. Elle sait que ça s'en vient. Elle le savait. Elle s'est préparée. Tout est à sa place pour que ça se passe de la façon dont c'est censé se passer. Donc, c'est une mort qui est violente, puis c'est une mort qui semble venir de l'extérieur. Mais concrètement, elle sait que cette mort-là s'en vient. Donc, à mon sens, c'est davantage une espèce d'achèvement de sa fonction qui crée cette situation-là que vraiment nécessairement une marginalité. Après, bon, chacun n'accepte pas de la même façon sa place dans le village, puis surtout, chacun n'accepte pas les changements sociaux qui naissent de cette parole qu'elle libère progressivement chez les femmes. Mais c'est aussi la seule façon que cette parole-là s'émancipe complètement, c'est sa mort. Donc, il y a comme une tension un peu dans le côté dramatique, parce qu'elle-même ne trouve pas ça grave. Et si elle ne meurt pas, ce qu'elle a mis en place avec tant d'efforts servira à rien, parce qu'elle ne peut plus être là pour que la réalité du village se transforme.
Alors, je reste sur ce mot de sorcière parce qu'il est en exergue. Sorcière aussi comme la chanson d'Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres, où il est question de plumes et doigts. Et ce titre, vous le citez en amont du roman. Est-ce que c'est une chanson que vous aimeriez qu'on écoute maintenant, Audrey Wilhelmy?
Avec un immense plaisir.
Alors, on l'écoute.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine québécoise Audrey Villelmy, dont le nouveau roman Peau de sang vient de paraître aux éditions Le Tripode. Un texte absolument unique dans son écriture, nous allons en parler dans un instant, et qui donne une voix à toutes celles et ceux aussi qui ne sont pas entendus, celles qui portent le monde, portent les hommes en les rendant meilleurs, en les guérissant par leurs mains, des mains qui brodent, qui cuisinent, qui soignent, qui aiment, qui caressent, qui consolent. Est-ce que c'est le langage du corps aussi qui est votre défi, Audrey Villelmy ?
C'est surtout mon territoire confortable, en fait, le langage du corps. Pour moi, ce n'est pas un exercice littéraire ou très cérébral. Quand j'écris, ça passe par mon corps de toute façon. Et je mène une vie aussi quand même dans un contexte qui est rural, avec toutes sortes de tâches très pragmatiques, comme rentrer mon bois pour me chauffer. Donc, j'ai un contact très tangible avec ce qui m'entoure. J'ai des animaux à la maison, je travaille beaucoup l'artisanat, les arts textiles, la bijouterie, les techniques de soudure. Donc, il y a toutes sortes d'éléments.
D'impression aussi.
L'impression artisanale, la gravure, donc les encres qui collent, le papier. J'habite un univers qui est excessivement tactile et sensoriel. Donc, pour moi, l'écrire n'est pas le dépaysement que ça représente pour le lecteur d'y entrer. C'est vraiment très proche de comment je vis.
Alors, c'est vrai que ce roman qui est envoûtant, en même temps, il peut être un peu déroutant pour les lectrices et les lecteurs au début, puisque, par exemple, il n'y a aucune majuscule, aucun point, comme si ce n'était qu'une seule et même phrase, mais pas vraiment non plus, puisque la narration est souvent ponctuée par des tirets qui font entendre, souvent par trois d'ailleurs, d'autres voix, comme un écho, comme dans un cœur de femme. Qu'est-ce que vous vouliez nous faire comprendre par cette narration, Audrey Villelmy?
Il y a deux choses différentes. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'accepter de vous laisser porter par le texte. Après les trois premières pages, si vous résistez pas trop à la structure, elle vous posera plus de problèmes. On finit par la comprendre d'instinct, puis c'est un peu justement une adresse au corps, puis à la sensorialité. Donc, à un moment donné, il y a un morceau où il faut que l'intellect se repose pour laisser les voix, la mélodie, la structure habiter le reste de votre ventre, de votre cœur, que ça résonne en vous ailleurs que seulement dans la partie cérébrale. Ça, c'est la première chose. La question de la ponctuation, elle est assez volontaire d'un point de vue technique. Là, c'est essentiellement Peau de sang est donc une figure qui raconte l'histoire d'outre-tombe. En général, les personnages d'outre-tombe sont très éthérés, très flottants, très désincarnés. Elle ne l'est absolument pas du tout. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de trouver une façon de traduire le fait qu'elle est morte et qu'elle a donc un autre rapport au temps que le nôtre. Donc, en enlevant la ponctuation, on n'enlève pas la ponctuation complète, on enlève seulement le point final des phrases. Il n'y a pas de point, en fait. Et pour moi, c'est cette idée de mettre un point à une idée, de mettre un point à un cycle, c'est de le terminer. Et comme elle appartient à un nouveau temps où cette finalité-là n'existe pas, d'enlever les points de fin de phrase était un peu une façon de traduire ce rapport à la mort qu'elle expérimente, qui est différent d'une autre. Les voix qui l'interrompent, elles sont un peu déconcertantes au départ parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas qui parle spécifiquement. Mais concrètement, c'est vraiment dans ma tête un chœur, comme un chœur grec et donc un espèce de rassemblement de personnages féminins en l'occurrence. Mais progressivement, ce chœur-là, il se définit. C'est comme s'il y a des personnages qui faisaient un pas en avant, qui tout à coup, on met un visage sur une des voix spécifiques du chœur. Après, ce personnage-là retourne en retrait avec le groupe. Donc, c'est vraiment la voix des femmes. Et ce qui m'intéressait beaucoup comme jeu avec cette construction-là, c'est que au départ, l'histoire, c'est celle des hommes. C'est les hommes qui vont voir Peau de sang à sa boutique et qui évoluent à son contact. C'est surtout leur histoire à eux. Mais ce que le texte dit, par contre, en dessous de cette histoire-là, c'est l'émancipation des femmes. Et ces voix-là qui se définissent, qui deviennent de plus en plus puissantes, qui trouvent leur force dans la structure narrative même, donc c'est-à-dire que sur les pages, elles occupent de plus en plus de place, bien, en fait, c'est aussi ce qui est en train de s'opérer narrativement en dessous, dans la construction du village. Donc, pour moi, c'était un outil intéressant qui demande un petit effort au départ de confiance, mais qui vraiment n'est pas gratuit, a son sens dans la construction du roman.
Est-ce que vous voulez bien, André Villelmi, nous lire un extrait de Peau de sang où, justement, on peut entendre quelques voix en plus de la narration faite par Peau de sang?
Je vais essayer de vous donner à entendre la différente dynamique des voix dans le texte. On commence quand même avec Peau de sang qui raconte. C'est une affaire de corps. Pas de tendresse, rien de l'affection quotidienne n'est en jeu. C'est l'idée d'une femme libre, le danger, le défi. Les hommes aiment se heurter à plus en sauvage qu'eux. Ils ignorent mon nom et le pays d'où je viens. Parfois, ils pensent que j'ai toujours été ici. D'autres fois, ils se demandent si j'apparais et disparais à ma guise. Toute la plumerie surgit les jours de désir, puis avalée ronde par le sol, jusqu'à leur prochaine visite. Ce n'est pas de l'amour, Célène, c'est un conte. Je voudrais quand même savoir le toucher, mon mari. Crois-tu que cela interromprait le règne du coucou, les heures qui s'égrènent et les minutes, tant de fois comptées et pourtant toujours identiques? Crois-tu que son désir donnerait soudain un sens à tes jours? Je voudrais savoir habiter sa pensée. Mais habites-tu la tienne? Tout se tait soudain. Célène est debout subjuguée. Elle regarde le seuil de la porte. Tout se joue sur le pas, là. D'un côté, la fuite, la rue lisse, nimbée de lumière, le temps long de l'attente. De l'autre, une grotte à soie, sous les sortilèges des oies. Je sais tout enseigner à qui veut apprendre.
Merci, Audrey Villelmi.
Je ne sais pas si ça donne une idée de la dynamique des voix, mais bon.
Si, ça donne une idée. Après, c'est vrai que c'est la lecture qui est peut-être plus facile que de l'entendre comme ça, et surtout que c'est un extrait au cœur du roman. En tout cas, cette mise en valeur des voix des femmes que vous faites, de l'artisanat des femmes, d'une certaine mesure, je pense que ça participe à ce que vous appelez le matrimoine. Mais en même temps, ce que je trouve très intéressant ici dans ce roman, c'est que le matrimoine ne s'oppose pas au patrimoine. Dans le sens où ici, on va entendre plusieurs voix d'hommes qui eux-mêmes sont prisonniers de leur statut masculin. Je pense particulièrement à ce personnage qui semble bien plus heureux dans des habits de femme que dans des vêtements d'homme. Pour vous, c'était important aussi de faire cet équilibre?
Oui, pour moi, bon, c'est un roman qui est résolument féministe, mais qui n'est pas féministe dans une question de lutte ou de hiérarchie ou de colère contre, par exemple, le masculin. Donc, mes personnages masculins sont autant opprimés par les structures en place que mes personnages féminins. Et le mouvement d'émancipation est autant nécessaire pour eux que pour les femmes. Donc, la structure, disons, patriarcale ou étouffante, elle est étouffante pour chacun, pas juste pour les personnages féminins. Et pour moi, c'est vraiment important dans le texte, mais c'est vraiment important humainement aussi d'avoir en tête les impacts d'une structure répressive pour autant les hommes que les femmes. Elle n'est pas de la même façon. La violence se manifeste de manière disproportionnée pour les personnes, des femmes ou les personnes marginalisées ou trans. Mais il reste que la structure étouffe aussi les hommes. Et dans le roman, je trouvais ça important donc, de montrer que, qu'un mouvement social, une transformation sociétale où les femmes ont plus de place, c'est aussi un environnement qui est plus sain pour les hommes qui sont écrasés par les mêmes systèmes.
Est-ce que quand vous voyagez, Audrey Villalmy, puisque on sent bien quand même que le féminisme dans le nord de l'Amérique, il peut être différent de celui de l'Europe, il peut être différent des autres continents et du continent africain. Est-ce que vous avez l'impression que vos livres, et celui-là en particulier, sont reçus différemment selon les endroits où vous allez les présenter?
Beaucoup moins que je pensais serait une réponse, la première réponse à donner à ça. C'est sûr que c'est davantage du côté du corps, du rapport au corps versus l'intellect, que là, ça, il y a une différence, par exemple, entre les lecteurs français et les lecteurs québécois. Le rapport à l'écriture des sens est plus déconcertant pour un lecteur français que pour un lecteur québécois, où c'est quand même assez fréquent dans notre littérature, dans notre façon de vivre, puis de raconter le réel. Du côté du féminisme, j'ai l'impression qu'on parlait au départ de la préservation de la langue française. On parlait de préserver, de conserver la mémoire, puis d'être plutôt combattant. J'ai pas plus un tempérament de guerrière du côté du féminisme que du côté de la langue. Le conflit fonctionne pas bien avec moi, la tension fonctionne pas bien avec moi, mais je pense que je suis bonne pour réinventer des possibles qui tiennent compte des luttes que les autres mènent autour. Donc, pour moi, mon rôle dans cette structure féministe-là, c'est de dire, OK, mais qu'est-ce que ça serait si, par exemple, le travail du sexe n'était pas quelque chose qui était démonisé, mais qui était accepté par l'ensemble d'une communauté comme une fonction sociale importante? Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa parole, se rapprocher de soi-même comme individu? Donc, c'est d'inventer des possibles qui pourront éventuellement devenir, nous rapprocher du réel sans que ça soit nécessairement belliqueux ou combatif parce que je ne serais pas capable de tenir la posture combative. Mais ça, j'ai l'impression que peu importe où on est dans le monde, on a besoin de nouvelles fictions qui transforment les perceptions qu'on a du rôle de la femme et des structures sociales en général.
Et passer aussi par la fiction et par le conte en particulier, aide.
Aide permet d'aller chercher chez chacun un espace d'ouverture. Parce que quand on arrive avec le réel, on arrive quand même aussi avec un cadre légal, avec un cadre politique, social, des positions qui sont très campées. Alors que dans l'espace de la fiction, déjà, il y a un petit peu plus de latitude. Dans l'espace de la lecture, où chaque personne est toute seule avec elle-même, l'acte de lecture n'est pas performatif devant les autres. Donc, c'est soit avec soi, on peut se poser un peu plus de questions parce qu'on n'a personne qui est témoin de ce questionnement-là. Donc, pour moi, la littérature est l'outil le plus efficace pour bousculer l'intimité puis ouvrir des portes un peu intérieures.
Très certainement. Merci beaucoup, Audrey Villalmy. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Peau de sang, qui paraît aux éditions Le Tripode.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Frujon-Toussaint. Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.